Alors avec cette période un peu particulière d'absence pour les vacances, pour les congés, pour un voyage missionnaire, pour le travail, c'est vrai que ici à Châlons, on se retrouve un tout petit groupe. Mais on se réjouit de pouvoir ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous avons mis une parenthèse, comme j'ai dit la dernière fois, dans notre étude sur la lettre aux Hébreux. Et la dernière fois, on avait considéré le psaume 102. Avant cela, on avait considéré le psaume 100. C'était tout à fait logique, d'une certaine manière, de regarder le psaume 101. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et nous allons regarder le psaume 101. Psaume 101, voici la parole de Dieu. C'est un psaume de David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Et c'est la parole de Dieu. Ce psaume a été décrit par Martin Luther comme un miroir pour les magistrats. Et au cours des siècles, les déclarations de ce psaume ont fourni de sages conseils aux responsables, qu'ils soient chrétiens ou non. On a soulevé des questions quant à l'origine ou à l'occasion qui a incité David à écrire ce psaume. Son contenu suggère que David l'a écrit avant de s'asseoir sur le trône et de commencer son règne sur toute la nation d'Israël. Un indice possible se trouve au verset 2, où David se languit pour le Seigneur. Quand viendras-tu à moi? Et ce langage et ressemble au langage qu'il utilise en 2 Samuel chapitre 6, au début du règne de David sur la nation. Quand David a voulu honorer l'Éternel, il a fait monter à Jérusalem l'Arche de l'Alliance. Mais parce qu'il n'avait pas suffisamment ou étudié de manière attentive les exigences bibliques pour déplacer l'Arche, sa tentative a échoué. Et le Seigneur a tuer l'un de ses serviteurs. Et dans la frustration de son échec, David s'est écrié en 2 Samuel 6, verset 9, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » Et il se peut bien que dans son anxiété à ce sujet, David ait voulu plaire au Seigneur en se réengageant aux normes divine de leadership, de responsabilité dans ce psaume. Un commentateur écrit: Celui qui commence son règne avec des pensées et des résolutions comme celle-ci peut bien chercher une fin heureuse de ce règne. Et rien ne nous montre plus clairement la vraie noblesse de l'âme de David que ce court psaume. Premier point que nous voulons voir ce matin, c'est un amour et une justice inébranlables. Quand on considère l'approche de du leadership, de la responsabilité. Le meilleur exemple, bien sûr, à considérer est celui du Seigneur. Et David commence par célébrer ses vertus, on pourrait dire les vertus jumelles qui caractérisent le royaume de Dieu. Verset 1, « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Le règne de Dieu est marqué par cette combinaison de justice, de sorte que le péché est renversé, que la justice a été établie. Cette combinaison de justice et de miséricorde bienveillante pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont accablés. En Michée 6, verset 8, Dieu donne les mêmes priorités à son peuple. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et bien plus tard, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a décrit ce qui est le plus important dans la loi comme étant la justice, la miséricorde et la fidélité. Matthieu 23, verset 23. On pourrait citer aussi le psaume 85, verset 11. Qui exalte le royaume de Dieu en disant « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Et l'exemple suprême de la justice de Dieu qui s'unit à la miséricorde est bien sûr la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, où la loi est accomplie lorsque le Seigneur Jésus-Christ a porté nos péchés, qu'il a subi la condamnation à notre place. Et où la miséricorde de Dieu a ouvert la voie à notre pardon dans le sacrifice, dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais en voyant ses priorités dans la propre administration de Dieu, David aborde sa royauté en mettant en évidence l'amour et la justice inébranlables. Pour l'humanité, c'est naturel de voir soit la miséricorde, soit la justice être soulignée. Certains dirigeants sont stricts, sont inflexibles. D'autres sont plus faciles à vivre, plus compréhensifs. Mais c'est la marque du royaume de Dieu, c'est la marque de la présence de l'Esprit-Saint dans le cœur, de voir ces valeurs qui sont apparemment contraires être combinées en harmonie. Un commentateur écrit ceci, il dit « La miséricorde et la justice agissent comme des freins l'un sur l'autre. La justice vérifie l'amour qui autrement serait indulgent à tort et donc nuisible. L'amour vérifie un jugement qui pourrait autrement être indûment sévère et donc aussi nuisible. David voulait que son règne soit marqué par ces deux éléments. » Quand David écrit au verset 1 « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Il consacre son leadership, ses responsabilités au Seigneur en imitant ce mélange harmonieux des attributs dans une justice spirituelle. Et un commentateur dit, c'est en tant que roi qui établirait son propre règne et son royaume selon le modèle divin, que David fait de ses attributs le fardeau de son chant. L'amour, la bonté et la justice. Cela nous amène à un deuxième point, un engagement pour la piété personnelle. Au moment des élections, quel que soit leur niveau, mais plus c'est important, plus ça devient au niveau national, plus ça devient évident. Les candidats, parfois, cherchent à détruire ceux qui sont en face en portant des accusations contre leur caractère moral. Et ceux-ci vont se défendre en mettant en avant leurs compétences. Difficile de nier le rôle de la compétence dans une fonction publique. Mais si David devait choisir entre le caractère et la compétence, il soulignerait d'abord le caractère. Et à cette fin, il s'engage dans une royauté de miséricorde et de justice. Il réalise aussi que sa propre piété sera nécessaire. Et par conséquent, David dit au verset 2, « Je prendrai garde à la voie droite, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Par une vie droite, ou on pourrait aussi traduire « irréprochable », David ne signifie pas qu'il peut mériter l'approbation de Dieu par des œuvres qui pourraient être parfaites sans péché. Mais ce à quoi il aspire, c'est une conduite personnelle qui est moralement droite et à un degré très élevé. Il veut façonner sa vie selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu. Et David considère que la piété au foyer est particulièrement importante pour quiconque veut occuper un poste de direction, de responsabilité. Verset 2, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Trop de responsables vont ériger une façade de justice apparente, publique, qui va masquer les dépravations personnelles, qui va masquer les négligences des devoirs dans la maison. Et malheureusement, le roi David a échoué le plus à cet égard. Il a transmis à ses fils plus de ses vices que ses vertus. La rébellion qui a éclaté dans la maison de David, où il a négligé ses devoirs parentaux, a finalement jeté le royaume dans un violent désarroi. La plupart d'entre nous, on a tendance à permettre le péché plus facilement en privé qu'en public. Mais la vraie piété exige une correspondance entre la piété à la maison et celle au travail. Un commentateur dit ceci, « Loin d'être hors de propos pour la fonction publique, la vie privée d'un homme est la chose la plus pertinente de toutes. En privé, il est lui-même. Là, il révèle son vrai caractère, et ce caractère comptera sous les pressions de la fonction publique. » Lorsqu'on considère la résolution de David à rechercher la piété, on observe non seulement combien cela est important pour quelqu'un qui assure des responsabilités publiques, pour un dirigeant, mais aussi combien un tel engagement est rare de la part de quelqu'un qui possédait un grand pouvoir dans le monde. Les monarques absolus comme David sont généralement libres de toute contrainte concernant leur conduite personnelle. Jean Calvin dit ceci, « Nous savons, et c'est une vérité que nous enseigne l'expérience, que presque tous les rois sont enivrés par leur splendeur de la royauté. Et ils sont tellement aveuglés par leur dignité qu'ils deviennent arrogants et hautains dans leur comportement, qu'ils plongent sans compter dans les plaisirs, et enfin qu'ils s'oublient complètement. » Combien donc il est important pour des personnes ou personnalités publiques qui ont une responsabilité et qui surtout font une profession de foi chrétienne, de penser et d'agir différemment de ce monde. David voulait non seulement fournir un modèle plus responsable, plus pieux de la royauté, mais il s'est engagé à sa poursuite. Remarquez ce qu'il dit au verset 2. Il dit « Je prendrai garde à la voie droite ». Une autre traduction dit « Je vais réfléchir à la voie irréprochable ». Le roi a fait une étude de sa propre personnalité. Il a sans doute prié au sujet de ses péchés. Il a demandé à Dieu d'éveiller les vertus divines, comme l'homme bienheureux dans le psaume 1. David aurait témoigné que son plaisir est dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Il en donne même pour nous. Un caractère pieux ne va pas apparaître simplement sans effort sérieux de notre part. David a médité, Il a réfléchi, il a étudié l'intégrité du cœur. Et de plus, cette poursuite de la sainteté implique de fuir les désirs et les habitudes indignes. David rajoute au verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Le roi réalise que le caractère divin exige à la fois un oui et un non. Dire oui à la parole de Dieu signifie aussi dire non aux choses perverses, aux choses pécheresses. David est désireux de surmonter les tentations du péché. Il commence par éviter les tentations elles-mêmes. Lorsqu'il était tenté, notez ce que David dit au sujet de ça, la priorité. La priorité, c'est ses yeux. David est résolu à se détourner sans délai. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Cela nous amène au troisième point, une opposition coordonnée contre le mal. Après avoir mis devant lui l'exemple divin de la miséricorde qui est unie à la justice, après s'être engagé dans la piété personnelle, David va consacrer la majeure partie du reste du psaume à cette opposition coordonnée contre le mal dans son royaume et dans sa cour. David sait que les dirigeants fidèles sont préoccupés par l'environnement dans lequel les gens vivent et surtout dans lequel le gouvernement est exercé. David est déterminé à gouverner d'une manière pieuse et il se rend compte à quel point il doit être vigilant face aux forces concurrentes. Dieu avait ordonné en Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et c'était le travail du roi David de poursuivre la justice nécessaire dans son royaume. C'est surtout dans la sélection des fonctionnaires, des conseillers, comme aujourd'hui dans l'embauche de gestionnaires au travail, ou même dans l'église de la convocation des officiers. C'est dans ces mondes-là, dans ces situations-là, que les résolutions de David devraient être appliquées. Et dans le reste du psaume, David souligne 5 vices contre lesquels il va s'opposer pendant son règne. Le premier vice, ce sont les hommes infidèles. Verset 3, « Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Une interprétation littérale parle des œuvres de ceux qui font des écarts. C'est-à-dire ceux qui agissent sans intégrité, ceux qui violent les accords. Et plus important, cela bien sûr se réfère aux apostats, ceux qui se sont détournés du Seigneur. Les actes de rébellion ont frappé au cœur de la fidélité de l'Alliance d'Israël. Alors David jure de haïr ces œuvres, de leur interdire de s'accrocher à moi. On ne peut pas chanter la bonté et la justice au verset 1, une idée qui inclut la fidélité à l'Alliance, sans s'opposer vigoureusement à l'infidélité. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Deuxièmement, David s'engage à s'opposer à la dépravation morale, verset 4, le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Pervers signifie méchant. Cela inclut l'idée de subvertir ce qui est vrai, ce qui est juste. David compte garder ces gens loin de moi, ne rien connaître de leur façon de faire. Et on voit ici l'importance pour les chrétiens de ne pas s'associer à la dépravation morale. Combien cela est juste, surtout pour un jeune chrétien qui forme des habitudes qui vont influencer sa vie. Peu de baromètres prédisent avec plus de précision la direction d'un jeune que la qualité morale de la fréquentation, de la compagnie qu'il fréquente. Et le même critère devrait s'appliquer aux dirigeants en ce qui concerne les conseillers qu'ils écoutent. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a exprimé sa détermination à interdire les mauvaises personnes en sa présence. Il barra la porte du ciel à ces personnes dépravées. Même si ces personnes professent le servir, il leur dira « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Luc 13, verset 27. Notre société occidentale aujourd'hui est en proie à des leaders d'opinion qui sont déterminés à renverser les normes morales, ces normes qui sont saines. Et on rencontre cela en particulier dans les médias, où les chansons vont favoriser l'adultère, la violence comme quelque chose de normal, où les émissions de télé vont dépeindre la perversité morale comme quelque chose de sain. Et le résultat, c'est une société dans laquelle la douleur relationnelle, les vies brisées sont de plus en plus la norme. David se résout à ne rien savoir d'un tel mal, en exhortant les croyants, en particulier les responsables, à refuser de s'imprégner de la souillure morale, de ne pas l'admettre dans leur cœur et dans leur esprit. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Troisièmement, David écrit avec une grande véhémence contre les dommages causés par les calomniateurs. Verset 5, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. » Il y a une chanson en anglais, une chanson pour les enfants, qui dit que des bâtons et des pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal. Mais David n'y croyait pas. Jean Calvin souligne à quel point la calomnie peut être mortelle. Il dit ceci, « Nuire à la réputation d'autrui en secret et par furtivité est un fléau extrêmement destructeur. C'est comme si un homme avait tué un de ses semblables d'un lieu d'embuscade, ou comme celui qui administre du poison à sa victime sans méfiance. Il détruit les hommes à l'improviste. » Peut-être est-ce que c'est la lâcheté de la calomnie qui augmente la détermination de David contre elle. « Je le réduirai au silence, » dit-il du calomniateur. Une cour royale ou un bureau du gouvernement aujourd'hui est généralement envahi par ceux qui commettent des diffamations avec des paroles empoisonnées. Et ce n'est que lorsqu'un dirigeant purge activement les calomniateurs, qu'il peut jouir d'un environnement de débat honnête, de collaboration saine au sein de sa cour. Et combien cela est vital pour l'Église, que ses ministères restent libres de cet esprit diffamatoire. Même quand on a de graves différences de doctrine ou de pratique, les responsables chrétiens doivent prendre soin de parler de manière charitable, de manière honorable les uns envers les autres, en évitant la tentation de calomnier ou de déformer les propos. Un commentateur écrit ceci, « De nos jours, lorsque les commérages rapportent des millions de dollars dans les kiosques à journaux et que ces commérages passent pour un partage dans de nombreuses assemblées, on a du mal à prendre cette offense de façon aussi sérieuse. Pourquoi David pensait-il que la calomnie était si mauvaise que ceux qui la pratiquent devraient être exterminés, réduits au silence ? » Et le commentateur répond, « David a pris l'alliance au sérieux. Et la calomnie pouvait menacer la paix et l'unité du peuple de l'alliance. » Et David a suivi l'exemple de Dieu lui-même, qui en Lévitique 19, verset 16, dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. » Quatrièmement, David opposera son règne à la fierté du cœur. Verset 5, « Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Ceux qui ont le cœur fier vont poursuivre leur ambition personnelle plus que le bien général, et ne seront jamais satisfaits des honneurs qu'ils reçoivent. Charles Spurgeon, dans son recueil de méditation sur les psaumes, « Le butin du roi », écrit que les hommes orgueilleux sont généralement durs et donc inaptes à occuper une fonction. Les hautains provoquent l'inimitié et le mécontentement. Moins il y a de ces gens à la cour du roi, plus son trône sera stable. Et cinquièmement, David se résout à fuir la tromperie et la malhonnêteté. Verset 7, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Quelle que soit la valeur à court terme qu'un trompeur rusé peut fournir à un responsable, une telle personne ne peut jamais être fiable. Un conseiller qui conseille la malhonnêteté ne sert pas bien son chef. Et en particulier dans l'Église, notre but devait être à la fois de faire la bonne chose et aussi de la faire de la bonne manière, en suivant la parole de Dieu et en priant dans les deux cas. Les conseillers de l'Église qui encouragent la tromperie ou d'autres pratiques non bibliques injectent un poison dans la vie du peuple de Dieu. Les dirigeants pieux dans l'Église, mais aussi dans le civil, devraient se prémunir contre les subordonnés qui traitent la vérité, l'intégrité, comme des substances malléables. Et David décide de ne pas les laisser entrer dans sa maison, de ne pas les tolérer dans sa présence. David allait recevoir une éducation sur cette dernière priorité, à la fin de son règne. Son conseiller le plus fiable était Achitophel, un homme qui était connu pour sa ruse. Et pendant la rébellion du fils de David, Absalom, David a découvert que ce serviteur trompeur avait pratiqué sa ruse sur le roi lui-même. Le Seigneur Jésus a comparé Achitophel à Judas Iscariote, en déplorant la trahison de ce faux disciple. C'était Achitophel, le fier, le trompeur, qui avait manipulé le coup d'Absalom, qui a chassé David de Jérusalem. Mais Absalom, lui aussi, a appris l'erreur de placer ce séducteur à sa droite, parce que le renversement du conseil d'Achitophel signifiait la fin de la rébellion d'Absalom et la fin de sa vie. Si David se dissocie de ceux qui sont infidèles, dépravés, calomnieux, orgueilleux et trompeurs, qu'il les poursuit, qui va-t-il chercher pour servir à ses côtés? Et la réponse nous est donnée dans le verset 6, où David oppose les négatifs forts avec un positif retentissant pour les fidèles et ceux qui sont pieux. Verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Un dirigeant, un responsable, un leader doit faire confiance à certaines personnes en les amenant dans une association plus proche avec elles. Et David décide que les fidèles et les pieux seront promus pendant son règne. Voici un verset à lire dans la prière avant chaque entretien d'embauche. Ce qui était vrai pour David en tant que roi est également vrai pour un cadre qui va embaucher un gestionnaire ou pour les anciens de l'Église qui cherchent un leader spirituel, pastoral. Les qualités les plus désirables d'un leader ne sont pas ses qualifications, son charisme ou ses connexions. C'est sa piété personnelle associée à la fidélité telle qu'il les démontre dans son appel. David s'engage à rechercher les fidèles. Il indique que cette poursuite serait une priorité active sous son règne. On peut l'imaginer en train d'informer les recruteurs en leur demandant de se souvenir de ce psaume. Jean Calvin résume ainsi, il dit « Il exercera discrétion et soin, qu'au lieu de prendre des personnes à son service sans discernement, il puisse sagement déterminer le caractère de chaque homme, afin d'avoir ceux qui vivent une vie de stricte intégrité comme ses amis les plus intimes, et qu'il leur confie les charges de l'État. » Et de cette façon, David donne des conseils précieux à ceux qui désirent des opportunités de carrière parmi ceux qui sont fidèles et pieux. Comme il est sage pour un jeune qui vient de se lancer dans une carrière, de désirer non seulement l'avancement, mais la possibilité de servir aux côtés de responsables, de dirigeants vraiment fidèles, vraiment justes, vraiment nobles. Est-ce qu'on désire un poste aussi louable? Alors, selon David, on devrait exiger une stricte intégrité dans notre discours, dans notre conduite, en ne permettant pas le genre de vice que David a proscrit. Faisons en sorte d'être un fidèle serviteur d'hommes et de femmes dont la direction peut être respectée, dont les objectifs sont en accord avec la parole de Dieu. Peu d'habitudes sont plus dignes d'être cultivées que celles d'avoir un cœur de serviteur associé à un engagement à être fidèle dans son devoir. Le Seigneur Jésus-Christ a défié ses disciples dans ce sens, en Matthieu 20, versets 25 et suivants. Il leur dit, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Cela nous amène au dernier point. Entrer dans la joie de notre Maître. Comme David l'a vu, une grande variété de gens impies doivent être exclus de l'association d'un dirigeant sage. Il est si résolu qu'il conclut au verset 8, « Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. » Le problème, c'est que David n'a pas donné suite à cet engagement. On pense à un personnage peu recommandable comme Joab, le général en chef de l'armée de David, qui a filé la tromperie aux côtés de David pendant des décennies, qui a apporté la division, le bouleversement du royaume. On a déjà mentionné Achitophel, conseiller rusé, qui a trahi son roi. Et à cette liste, on pourrait rajouter de nombreux fils de David, en particulier Absalom, qui a failli renverser le trône de David, et Adonija, qui avait organisé un coup d'État qui était presque réussi lorsque David était avancé en âge. David n'avait pas suivi le psaume 101, même avec ses propres fils. Et donc, pas étonnant que son règne, qui avait si bien commencé, se soit si mal terminé. En fin de compte, c'est David qui s'est trahi en ne donnant pas suite à son engagement personnel principal, verset 2, « Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Le jour est venu où David, peut-être épuisé par ses fardeaux, devenu négligent de son état spirituel, a commis les péchés les plus grossiers dans sa propre maison. Il a utilisé son pouvoir pour violer Bathsheba. Et en cherchant à dissimuler son adultère, il a conspiré dans le meurtre de son mari, qui était le genre même d'homme qu'il avait précédemment résolu de promouvoir, de préserver. C'est à partir de la chute personnelle de David que ses résolutions dans ce psaume 1 sont tombées à terre, brisées, et avec elles son royaume. Mais heureusement, il y a un autre David qui parle dans ce psaume, dont l'engagement envers la justice ne manquera jamais. Autant marqué par Dieu, un fils de David naîtra de qui il serait justement dit au sujet de toute sa vie, il fait tout à merveille. Marc 7, verset 37. Et Ésaïe 9, verset 5 l'avait prédit. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans cette vie, tout dirigeant, tout leader humain, aussi engagé soit-il au début à être pieux, à être juste, finira par nous décevoir, par faire défaut à un degré plus ou moins grand. Mais il y a un roi qui ne manquera jamais dans les résolutions du psaume 101. Le Seigneur Jésus soutiendra à jamais la miséricorde et la justice, parce qu'il est établi tous les deux dans le sang de sa croix. Et lors de son retour, le Seigneur Jésus-Christ s'est engagé à débarrasser sa création de tous ceux qui sont faux, qui sont trompeurs, qui sont méchants. En brandissant une épée de justice omnipotente, il va nettoyer le monde, comme il a chassé les hypocrites du temple. En Apocalypse 22, verset 15, nous lisons ceci. « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, hors de la ville. » Mais qui alors peut être sauvé? Qui peut être sauvé sous cette justice qui est parfaitement juste? Et la Bible répond. Par cet appel à la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour des pécheurs qui se repentent et croient en lui. Le verset précédent, Apocalypse 22, verset 14, déclare ceci, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Le règne du Seigneur Jésus-Christ maintient la justice comme il a payé la pleine pénalité pour nos péchés sur la croix. Et comme son jugement final condamnera tous ceux qui ont refusé son évangile. Mais c'est surtout dans sa miséricorde et sa grâce que les pécheurs se réjouissent. Dans l'histoire, il y a plusieurs exemples, mais l'exemple de la vie d'Augustin, parfois connu sous le nom de Saint-Augustin, Augustin d'Hippone. Lorsque sa mère, Monique, est décédée, son fils a été accablé de chagrin et de tristesse. Mais un de ses amis a pris un recueil de psaumes et s'est mis à chanter les premières lignes de ce psaume 101. « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Et Augustin s'est levé, il s'est joint au chant, il s'est réjoui de la foi de sa mère, mais aussi et surtout de la fidélité du Sauveur à la miséricorde duquel sa mère avait confié son âme. Et nous aussi, nous pouvons nous réjouir de la miséricorde, de la justice inébranlable du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a accompli, celui qui va tenir et qui accomplit toutes les promesses. Étant sauvés par grâce, notre ambition sage devrait simplement être celle d'un serviteur, dévoué, pieux, qui désire par-dessus toutes les autres louanges recevoir la plus haute distinction au jour du retour de Jésus-Christ et d'entendre ses paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Que Dieu nous aide à comprendre, à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.